Donc on en est vrai Dieu, vrai homme, qui est un sujet qui n'est pas facile, alors accrochez-vous un petit peu, parce que ça va être aussi philosophique que théologique, sachant que les plus grandes dérives dans l'Église, pour le moment, ont eu lieu sur cette question-là, est-il vrai Dieu, mais pas vrai homme, est-il vrai homme, mais pas vrai Dieu ? Et donc de tenir les deux, et comment se tiennent les deux. L'unique, l'événement unique, donc au numéro 464 du catéchisme, l'événement unique et tout à fait singulier de l'incarnation du Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus-Christ soit en partie Dieu et en partie homme, ni qu'il soit le résultat d'un mélange confus entre le divin et l'humain. Il s'est fait vraiment homme en restant vraiment Dieu. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Cette vérité de foi, l'Église a dû la défendre et la clarifier au cours des premiers siècles face à des hérésies qui la falsifiaient. Voilà. Un peu, quelle est la nature du Christ ? Est-ce que c'est en fait un Dieu, mais qui n'a pas vraiment une humanité comme la nôtre, une intelligence comme la nôtre, une volonté comme la nôtre ? Voilà, est-ce que, au fond, c'est une fausse humanité ? Est-ce que l'humanité, est-ce que Jésus, au fond, est Dieu, est vrai, est simplement personne humaine, alors que nous savons qu'il est personne divine, et donc, mais qu'il n'est pas vraiment Dieu, donc il n'est pas vraiment fils de Dieu, Dieu lui-même, hein, ou alors est-ce que c'est une forme de, est-ce qu'en lui il y a deux personnes, la personne divine et la personne humaine. Voilà un peu les trois formes d'hérésie qui ont habité les premiers siècles de l'Église concernant le Christ. Hérésie qu'on voit réapparaître régulièrement. Alors ça soulève beaucoup moins de passion aujourd'hui que ça en soulevait autant jadis. Mais on voit, on transforme Jésus. Maintenant, c'est beaucoup, on nie beaucoup la dimension divine du Christ. Hein, et donc c'est une forme d'humaniste, à la manière de Gandhi, c'est une forme de prophète, de quelqu'un qui fait le bien, mais qui n'a pas une dimension divine. Hein, maintenant, c'est plutôt ça, c'est cet humanisme, mais qui fait fi du Christ dans sa nature divine. Hein, donc, voilà. Les premières hérésies ont moins nié la divinité que son humanité. Vrai, ce qu'on appelle le docétisme. Dès les temps apostoliques, la foi chrétienne a insisté sur la vraie incarnation du Fils de Dieu, venu dans la chair. Mais dès le IIIe siècle, l'Église a dû affirmer contre Paul de Samosate, dans un concile réuni à Antioche, que Jésus-Christ est Fils de Dieu par nature et non par adoption. Le premier concile œcuménique de Nicée, en 325, confessa dans son credo que le Fils de Dieu est engendré, non pas créé, de même substance que le Père, et condamna Arius qui affirmait que le Fils de Dieu est sorti du néant et qu'il serait d'une autre substance que le Père. Alors, c'est bon, vous connaissez les deux credos, on a vu les deux symboles, hein, le symbole des apôtres ou le symbole de Nicée-Constantinople, qui vient de ce premier concile œcuménique, hein, Dieu, Fils de Dieu, engendré, non pas créé, lumière née de la lumière. Voilà, c'est toute une explicitation pour redire que, au fond, la divinité du Christ habitait vraiment son humanité, mais que la substance du Christ, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se tient, substance veut dire se tenir dessous. Qu'est-ce qui soutient cette humanité du Christ ? C'est la personne divine, la deuxième personne de la Trinité. C'est ça qui soutient, qui porte l'humanité du Christ. Jésus n'est pas personne humaine. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on verra tout à l'heure avec l'hérésie nestorienne, hein, Jésus qui serait personne humaine et personne divine en même temps. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que nous ne serions pas sauvés. Il est important que le salut, pour être universel, doit forcément s'adresser dans notre humanité, mais venir de l'extérieur de notre humanité. Ce n'est pas un homme qui peut sauver un homme, aussi saint fut-il. Il faut bien qu'un Dieu puisse sauver la personne. Mais en même temps, il doit venir de l'intérieur de l'humanité, c'est-à-dire prendre notre nature humaine. Mais prendre la nature humaine sans être personne. S'il était personne humaine, le Christ, les actes qu'il accomplirait vaudraient à la limite pour lui. Et encore. Mais il se sauverait même pas lui-même. Hein, s'il était simplement personne humaine. De fait, vous avez peut-être vu, un peu, c'est plutôt aux Philippines, des pratiques condamnées par l'Église, mais des gens qui veulent se faire crucifier. Mais crucifier, je suis crucifié avec les clous dedans, etc. Hein, au moment du chemin de croix, en Philippines, c'est un peu une tradition. C'est plus bon. Tout à fait condamné par l'Église, mais bon, c'est une tradition populaire. Et il y a une liste d'attente très, très importante. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, mais ces gens-là ne se sauvent même pas eux-mêmes. Vous voyez, c'est parce que ce qu'ils accomplissent, bon, peut-être, ensuite, on ne peut pas être juge des intentions, mais ça n'atteindrait jamais l'humanité. Pour que ça atteigne l'humanité, il faut que ce soit Dieu. Mais on ne peut pas avoir en nous deux personnes, deux substances. Il ne peut pas y avoir deux substances qui soutiennent la nature humaine. Ça, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir deux personnes en nous. Donc, soit c'est une personne humaine et alors il n'est pas sauveur, ou alors s'il est sauveur, s'il est Jésus, Dieu qui sauve, c'est une personne divine. Mais qui a pris notre nature. La différence, ici, nous sommes tous de nature humaine. Mais nous formons pas une seule personne humaine à tout l'ensemble de ce que nous sommes là. Nous sommes chacun une personne humaine, mais nous partageons la nature humaine. Nous sommes chacun une substance, mais nous formons donc une individualité propre. Mais qu'est-ce que nous partageons entre nous ici? C'est de la nature humaine. Mais on ne partage pas une même substance. Alors c'est un peu philosophique, etc. On ne partage pas un même être personnel. Chacun a forcément sa propre identité, mais en revanche, on a en commun la nature humaine. Mais avec Jésus, ce qu'il a en commun avec Dieu, c'est la substance, c'est la personne. Il est de même substance que le Père. Hein, quand on dit de même nature que le Père, c'est au fond, c'est en latin, c'est beaucoup plus clair. Hein. Consubstantialem patris, donc il est de même substance que le Père. Hein, mais il fait une personne quelque part. C'est trois personnes, mais qui dans leur substance, là aussi, on n'aura pas le temps d'avoir la Trinité, mais dans leur substance, c'est une substance divine, mais qui a pris notre nature humaine. Mais donc, il est vraiment homme, et donc il peut être sauveur. Sinon, il peut pas être sauveur. Hein, ça c'est. Que Arius, par exemple, Arius a fait un tort absolument considérable, justement, hein, c'est que affirmer que le Fils de Dieu est sorti du néant et qu'il serait d'une autre substance que le Père. Voilà. Il ne serait pas de la même, il ne serait pas de substance divine. Il ne serait pas une personne divine. C'est l'arianisme a touché quand même énormément d'évêques. Hein, le concile de Nicée, Constantinople, le concile de Nicée en 325, justement, a été pour condamner, justement, Arius. Il est fort probable ensuite que, donc, vous voyez, 325, l'islam est né en 600 et quelques, il est fort probable que l'islam ait grandi dans des communautés chrétiennes ariennes. C'est-à-dire que vous trouvez dans l'islam Jésus, Marie, Joseph, qui jouait, mais pas du tout comme nous le confessons. Et donc l'islam a grandi dans le Moyen-Orient, c'est là où l'arianisme s'était beaucoup répandu, dans le Maghreb, toute cette partie-là, bon, en plus avec la force de l'épée. Bon, moi, ce n'ai pas été les seuls à utiliser l'épée, mais bon, les deux aidant, et mais surtout idéologiquement, oui, Jésus, mais c'est prophète, il est prophète. Et c'est le premier des prophètes. Mais bon, et ben ça c'est l'arianisme. Et donc, bien sûr, je ne crois pas en l'islam, en la côté révélation de l'islam, ça me paraît évident, qui n'apporte rien au christianisme et au judaïsme, c'est plutôt un retour en arrière, Mais c'est comment expliquer la propagation rapide, bon, par la force des armes, mais aussi au niveau idéologique, par des communautés aryennes, qui déjà en étaient convaincues. Un aryanisme mal guéri. Et que Jésus-Christ est fils de Dieu par nature et non pas par adoption. Nous, nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu par adoption, hein, par participation. On n'est pas par nature, on n'est pas Dieu par nature. On est participant de la nature divine, de la substance divine, de l'être même de Dieu. En Dieu, substance et nature se confondent. Alors voilà. C'est un peu aussi des termes de philosophie, mais en Dieu, c'est la même chose. En nous, non. En nous, on est même nature, mais on n'est pas de même substance les uns les autres. On a chacun une substance, un être propre, mais on est de même nature. Donc, ça, je pense que c'est... En tout cas, c'est important de pouvoir revenir à ça. L'hérésie nestorienne, voyez que dans le Christ, une personne humaine conjointe à la personne divine. Face à elle, Saint Cyrille d'Alexandrie, le troisième et le troisième concile œcuménique, réunis à Éphèse en 431, ont confessé que le Verbe, en s'unissant dans sa chair à une âme animée, à une chair animée par une âme rationnelle, est devenu homme. Voilà. Il s'est uni alors à une âme, à une chair animée par une âme rationnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas uni à une personne humaine. Il ne s'est pas uni à une personne, il s'est uni à ce qui fait, il a en lui tout ce qui fait la nature humaine, à l'exception du péché. Mais c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas de nature humaine en dehors d'une personne humaine. On ne connaît pas une nature humaine qui se baladerait comme ça dans la nature, si j'ose dire, sans qu'elle soit incarnée dans un être singulier, dans un individu singulier. On a aucune idée de ça, forcément. Donc, mais Jésus lui a pris, mais en revanche on peut dire qu'entre nous on a une commune nature, donc il a pris cette nature et ce qui lui sert, de la substance qui se soutient à cette nature, c'est la personne divine, de la seconde personne de la Trinité, le verbe s'est fait chair, donc c'est ça qu'il faut, il a pris une chair animée par une âme rationnelle et devenu homme, voilà, c'est pour bien, à chaque fois, les conciles, sauf le concile Vatican II qui était un concile pastoral, mais les conciles se sont prononcés contre des hérésies. Et donc, du coup, ont réaffirmé la foi catholique. C'est comme ça que la foi catholique a progressé aussi. C'est face à des hérésies, on dit, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Du coup, il y a le peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle le sensus fidei, on en a parlé un peu, ce sens commun de la foi qui disait ça, puis les théologiens, etc. Bon, et c'est très important d'avoir une théologie sûre là-dessus. Il ne s'est pas aperçu, parce que parfois même on entend des personnes qui, même actuellement, qui disent qu'il s'est aperçu progressivement qu'il était Dieu. Non, ça c'est pas possible. Je dis, tiens, je marche sur les eaux. Qu'il devienne de l'eau qui devient du vin, ça marche, tiens, il y a peut-être quelque chose. Non, c'est-à-dire, l'âme rationnelle, cette conscience divine a habité le Christ toute sa vie, même au moment de sa conception. Alors là, c'est là où nous, on n'a pas du tout, au moment de la conception, nous, on n'a pas de conscience, parce qu'on n'a pas une personne avant notre conception. On n'a pas une personne qui vient habiter une nature humaine. Non, il n'y a pas une personne qui préexiste à notre conception. La personne se crée au moment de la conception. Mais Jésus, dans sa conscience divine, a su qu'il était Dieu de toute éternité. Et donc c'est important de savoir quand est-ce qu'il parle comme Dieu et quand est-ce qu'il parle comme homme. Parce que ça, parfois, on n'arrive pas à comprendre. C'est que, par exemple, il dit... Le Père est plus grand que moi. Il parle comme homme. Le Père et moi, nous sommes un. Il parle comme Dieu. Et donc, quand il dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?», ce n'est pas en tant que verbe de Dieu. Ça n'aurait aucun sens. Je veux dire, qu'en Dieu, il y a un abandon de la Trinité et l'œuvre agit de commun accord, de concert, dans toutes les œuvres du Christ. C'est dans son humanité, dans sa chair humaine, dans son âme rationnelle, dans son âme humaine, qu'il a dit « mon Père ». Et ce qui fait que nous-mêmes aussi, comme c'est dans son humanité, on peut très bien se mettre, nous aussi, reprendre à notre compte cette parole du Christ, à certains moments d'angoisse, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais on ne va pas reprendre cette parole du Christ comme Dieu, à moins qu'on soit chez les fous. Alors du coup, on envoie chez Père Stéphane, là c'est un grand spécialiste de la chose, hein, l'hôpital psychiatrique, il y a beaucoup, il a trois Jésus en ce moment, lui. Donc, c'est bon, c'est un peu autre chose, mais voilà, c'est dans sa nature humaine qu'il a crié vers le Père. Dans cette direction, dans cet abandon, je veux dire, cet éloignement de cette nature humaine de par rapport à la personne du Verbe, quoi, quelque part, une certaine plongée dans la... Maintenant, on balbutie, mais plongée dans une certaine ténèbre, dans une, surtout l'injustice. Donc l'humanité du Christ n'a d'autre sujet, c'est-à-dire d'autre substance, c'est pareil, que la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumée et faite sienne dès sa conception. Pour cela, le Concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu en son sein, mère de Dieu non pas parce que le Verbe a tiré d'elle sa nature humaine, sa nature divine, évidemment. Marie n'avait pas de nature divine, elle n'a pas donné une nature divine au Verbe, ça c'est évident, hein, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré, doté d'une âme rationnelle, unie auquel, unie en sa personne au Verbe, unie auquel, en sa personne, Marie, c'est le truc de 40 lignes, Marie, non, mère de Dieu, non pas parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, uni auquel corps sacré, en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. Bon, c'est un peu complexe, parce que, bien sûr, c'est, du coup, ils ont voulu dépiauter tout pour être bien sûr qu'on se comprenne. Donc, elle est mère de Dieu, alors qu'on n'y comprend rien. Non, mais en fait, c'était ça. Ils ont voulu dire, elle est mère de Dieu, non pas parce qu'elle a donné la divinité à Jésus, ça apparaît évident. D'ailleurs, bon, Marie est personne humaine. Ça, on l'a vu la dernière fois, hein, elle n'est pas personne divine. Elle est personne humaine. Voilà, mais elle a donné une âme rationnelle, hein, et puis une chair humaine à la personne divine de la Trinité, à la seconde personne de la Trinité. Donc c'est bon, voilà, ça c'est donc contrairement à ce que Nestorius disait, il n'y a pas une personne humaine et ça, pourquoi c'est important, encore une fois, pour l'universalité du salut. Vous dérapez en théologie là, Jésus est rien du tout. C'est-à-dire, bon, soit il est pas vraiment homme, et donc il ne peut pas se faire proche de nous, et donc c'est comme une forme d'imagerie de l'homme, de faux hommes, de surhommes, mais qui serait peut-être, bon, comment il serait venu du néant, c'est ça, voilà. Il serait venu, bon, un peu en mode science-fiction. Non, il est vraiment né du... Marie lui a donné la nature humaine, hein, et du coup, de cette nature humaine, engendrée par l'Esprit Saint, vraiment, c'est vraiment engendré par le Père, mais vraiment le fruit du Saint-Esprit, donc évidemment, on voit bien que, déjà, dès la conception de Jésus, c'est une œuvre trinitaire, et du coup, c'est Marie qui lui a donné la nature humaine. Donc, c'est vrai que comme... nature humaine, il a grandi, dans son humanité, il a grandi, il a appris à lire, il a appris à marcher, il a appris à obéir, etc., etc., dans son humanité. Hein, donc c'est... Hein, mais dans sa divinité, il n'a pas appris à devenir Dieu ou s'est rendu compte qu'il était Dieu. Non, ça n'a aucun sens. Les monophysites, c'est-à-dire ceux qui affirment que la nature humaine avait cessé d'exister comme telle dans le Christ en étant assumée par sa personne divine de Fils de Dieu, confrontés à cette hérésie, le quatrième concile œcuménique de Chalcédoine a confessé en 451 « À la suite des saints pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps. » Âme rationnelle, ça veut dire quoi ? Âme qui a une intelligence et une volonté, c'est ça que ça veut dire. Une âme humaine, hein, qui a une intelligence et une volonté, un corps qui est doué d'une sensibilité, de tous les attributs d'un corps. Consubstantiel au Père, de même nature, de même substance que le Père, selon la divinité. Consubstantiel à nous, selon l'humanité. Voilà. De même nature que nous-mêmes, en fonction. Voilà, c'est. Semblable à nous en tout, à l'exception du péché. C'est la lettre aux Hébreux, engendré du Père avant tous les siècles, selon la divinité, et en ces derniers jours, pour nous et pour notre salut, né de la Vierge Marie, Mère de Dieu, selon l'humanité. Voilà. Alors, c'est un peu complexe, mais il faut bien, ça c'est, en tout cas, c'est pour le coup un peu plus clair, c'est, voilà, il y a chaque chose à sa place, quoi. C'est, il est vraiment Dieu, il est vraiment homme. Hein, il est vraiment Dieu, il est consubstantiel au Père, il est vraiment homme, il est de même nature que nous, hein, il est vraiment à l'exception du péché, au fond. Hein, il est engendré depuis tout le temps, de tous les siècles, comme Dieu. Il est né en ces jours qui sont, dans ces temps qui sont les derniers, de la Vierge Marie, selon la nature humaine. Donc, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, c'est un mystère, hein, c'est vraiment, mais en même temps, c'est le cœur même de notre foi. S'il cesse d'être l'un ou l'autre, ben nous cessons d'être chrétiens, parce que le christianisme, c'est d'abord cette confession de foi en Jésus, et non pas une morale, comme vous le savez, hein, ou une... voilà, c'est vraiment cette confession de foi en Jésus. Vrai Dieu et vrai homme. Hein, on a souvent fait la comparaison avec les deux montants de la croix, le montant vertical comme vrai Dieu, le montant horizontal comme vrai homme. Mais bon, ça c'est des images qui nous aident un petit peu à comprendre. Mais à la fois c'est un Dieu qui est proche, et à la fois c'est un Dieu qui est transcendant. Et non pas comme les autres religions monothéistes, ben, qui il n'y a que la transcendance, il n'y a pas du tout l'immanence, il n'y a pas la proximité. Et ça, ça fait une sacrée différence. Une différence sacrée, parce que l'avoir un Dieu qui est proche, il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire que Dieu est plus intime à eux-mêmes qu'eux-mêmes, comme dit saint Augustin. Parce que c'est un Dieu qui est proche. Parce que justement, il a pris notre nature humaine, l'incarnation. Ça, c'est capital, ça. S'il n'y a pas ça, s'il reste Dieu, mais que ce n'est pas un vrai homme... qui n'a pas vraiment souffert, qui faisait semblant de souffrir, qui n'a pas vraiment appris, qui n'a pas vraiment bon. Ben, c'est vrai que ça ne nous intéresse pas, quoi. C'est un Dieu lointain comme ça. Il est la réponse au mal, précisément parce que c'est un vrai homme. Il est la réponse au mal, si c'est parce que dans cette nature humaine, il a souffert. Et donc, uni à la nature, à la substance divine, y a eu un frein. Pourquoi est-ce qu'on croit que l'amour de Dieu met un terme au mal ? Parce que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il ne serait pas vrai Dieu, il n'y aurait aucun terme de mi. Parce que comme homme, il souffrirait comme tous les hommes, et puis ça se voit là. Mais comme Dieu, il peut mettre un frein. Il peut mettre un, par son amour, plus fort que la mort, et c'est la résurrection. Il met un terme. Un terme au mystère d'iniquité. Alors, on ne le voit pas encore dans la plénitude, parce que ça, on voit encore le mal qui agit en nous et autour de nous, mais en tout cas, on le voit, mais on le sait dans la foi, que à la fin, quand tout lui sera soumis, eh bien, Dieu sera tout en tous. Un seul et même Christ, Seigneur, Fils unique, que nous devons reconnaître en deux natures, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. La différence des natures n'est nullement supprimée par leur union, mais plutôt par les propriétés de chacune sont sauvegardées et réunies en une seule personne, et une seule, ce qu'on appelle hypostase, bon, une seule personne. Voilà, c'est. Il tient, la personne du Verbe soutient l'âme et le corps du Christ. Mais c'est intéressant ça, parce qu'au moment de la mort, pourquoi est-ce que l'âme et le corps du pourquoi le corps du Christ ne s'est pas décomposé? Parce qu'il était soutenu avec son âme immortelle, son âme rationnelle, dans la personne du Verbe. C'est-à-dire que le Verbe de Dieu a en lui, dans ses mains, et la vie et la mort. Je ne sais pas si je suis clair. Hein, c'est-à-dire que le Verbe de Dieu était porteur durant sa vie de l'âme rationnelle et du corps, mais après la mort, il est vraiment mort au moment de la crucifixion, ce Verbe de Dieu portait aussi, quelque part, était le soutien dans sa mort de l'âme de Dieu et de l'âme du Christ et du corps du Christ, sans âme. Il tenait les deux. C'est-à-dire qu'il est celui qui tient et la vie et la mort. Ça va ? Bon. C'est bien, vous êtes polis. C'est bien, c'est super beau, hein. Non, enfin, je vais méditer là-dessus, c'est que justement, là, il n'y a pas eu de décomposition, hein. Ton fils n'a pas connu la corruption, c'est comme dit le psaume, précisément parce que c'est le Verbe de Dieu. Ce serait pas le Verbe de Dieu.
Dans les saints aussi.
Ah, bon, ça aussi, enfin, ça c'est encore autre chose. Mais ils ne sont pas ressuscités. Après le concile de Chalcédoine, certains fiers de la nature humaine du Christ, une sorte de sujet personnel, contre eux, le cinquième concile œcuménique à Constantinople en 553 a confessé à propos du Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui est notre Seigneur Jésus-Christ, un de la Trinité. Tout dans l'humanité du Christ doit-on être attribué à sa personne divine comme à son sujet propre, non seulement les miracles, mais aussi les souffrances et même la mort. Celui qui a été crucifié selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ, est vrai Dieu, Seigneur de la gloire et un de la Sainte Trinité. Voilà, enfin, c'est très beau aussi. Il a été, quand on a crucifié aussi, en sa chair, un de la Trinité. Mais en le crucifiant, on mettait un terme, par l'obéissance du Fils au Père, on mettait un terme au mal, au mystère du mal. Au mystère d'iniquité. Donc c'est là, hein, c'est vraiment celui-ci, vous vous rappelez le centurion au pied de la croix, vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Comme une révélation qui lui a été faite. Mais Fils de Dieu, vraiment, il était Dieu, vraiment, il était le Fils de Dieu. Voilà. Comment le Fils de Dieu est-il homme? Vous posez cette question, vous taraude depuis votre petit déjeuner. Parce que l'union mystérieuse de l'incarnation, la nature humaine, a été assumée, non absorbée. Hein, c'est intéressant, elle a été assumée. Elle n'a pas été. Parce que ce qui est valable pour la nature humaine du Christ est valable pour notre nature aussi. Quand on va dans le royaume, on n'a pas vocation à être absorbé par Dieu. On n'est pas comme les hindous, hein, ou les bouddhistes, c'était toutes les religions. On va vers le grand tout, et on va se dissoudre dans le grand tout. Non, notre personne, notre âme rationnelle existera, hein, et notre corps ressuscitera dans la gloire, mais elle ne sera pas confondue, elle sera assumée par la divinité, mais elle ne sera pas confondue avec la divinité. Sinon, c'est un panthéisme. Un panthéisme, c'est de dire que toute chose est Dieu. C'est-à-dire confondu. On ne va pas être confondu avec Dieu, on va être en Dieu, mais comme on est, dans notre individualité, avec notre âme et ensuite à la gloire avec notre corps. Mais c'est, du coup, vous voyez comme quoi ce qu'on dit du Christ s'appliquera aussi à nous. Hein, parce que si on dit que le Christ, au fond, est une sorte, l'humanité du Christ est une forme de fusion avec la divinité, voilà, du coup, c'est ce qui nous attend nous aussi. Oui, c'est-à-dire que, voilà, là, on fait de la théologie, là. Donc, du coup, c'est que l'humanité du Christ, elle n'est pas absorbée par la divinité, elle est assumée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas confondue avec la divinité. Elle est bien distincte. C'est vrai Dieu et vrai homme. Donc, il y a une vraie distinction, et cette distinction fait que nous-mêmes, comme le Christ est le premier qui nous a ouvert le chemin, nous-mêmes, nous serons aussi assumés par Dieu. Qu'a fait la Vierge Marie, si vous avez bien suivi la dernière fois? Elle a été assumée, et en fait, son assomption. Alors que Jésus, il est en fait son ascension, ça n'a rien à voir. Jésus n'a pas été, parce que ascension, il a en lui cette capacité d'aller vers les cieux, parce qu'il est Dieu, il y en vient, forcément, il n'a pas besoin d'être assumé dans sa divinité, mais son humanité, elle, oui, son humanité a été prise, forcément, parce que l'humanité en tant que telle n'a pas la capacité d'accéder aux cieux, mais en lien, parce qu'elle est elle est en communion, elle est soutenue, portée par la divinité, et du coup le fait que nous aussi nous serons appelés à aller vers le ciel avec notre âme rationnelle, avec ce que nous sommes, on ne sera pas confondu en Dieu, on ne sera pas dissous en Dieu, on existera en Dieu, on sera participant de là, mais comme personne humaine, alors incomplète parce qu'avec notre âme, mais ensuite dans la gloire avec notre corps. Et ça, c'est quand même très important, parce que si on voit pas ça, on peut très vite, parce que des dérives là entraînent des dérives par rapport à la notion de salut. De même, on a vu par rapport à la Vierge Marie, hein, c'est que dans la Vierge Marie, tout se croise quelque part, et donc pour vérifier une hypothèse théologique, c'est toujours bien de l'appliquer à la Vierge Marie. Donc là, c'est pareil avec Jésus. Hein, si on dit que, en fait, le salut consiste à être une forme de confusion, d'absorption dans la divinité, du coup, on dit, non, alors du coup, Jésus n'était pas vraiment homme, puisqu'il était absorbé par la divinité, son humanité. C'était pas vraiment une humanité vraie comme nous. Si, c'est une vraie comme nous, hein, si ce n'est qu'elle était assumée. Comme il n'avait pas la personne du Verbe, l'assumer, la porter, la soutenir, son âme rationnelle, son corps humain, bon voilà, toute sa sensibilité, tout ça était porté avec le, comme par la divinité, mais sans confusion. Alors si ce n'est que ça, on n'a pas du tout idée de ce que ça veut dire, quoi. Mais il n'y a que l'exemple de Jésus, quoi. Le Fils de Dieu. Alors attends, hop. L'Église a été amenée au cours des siècles à confesser la pleine réalité de l'âme humaine avec ses opérations d'intelligence et de volonté et du corps humain du Christ. Voilà, il y a une vraie intelligence humaine, une vraie, au 470, une vraie intelligence humaine, une vraie volonté humaine, un vrai corps humain. Il n'y a pas eu de... C'est pas comme une forme de fusion où au fond, voilà, c'était Superman. Il s'est fatigué, il a vraiment souffert, etc. Mais parallèlement, elle a eu à rappeler chaque fois que la nature humaine du Christ appartient en propre à la personne divine du Fils de Dieu qu'il a assumée. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait en elle révèle d'un de la Trinité. Alors c'est ça, c'est très fort, ça. Quelque part, j'ai accès à la Trinité par l'humanité du Christ. L'humanité du Christ me fait voir ce qu'est la Trinité, un de la Trinité. Et donc, les actes que pose le Christ, c'est les actes que pose un de la Trinité. C'est-à-dire les actes que pose Dieu. C'est quand même pas rien, je veux dire, c'est énorme. C'est, quand on le voyait agir, on voyait agir dans notre humanité un de la Trinité. Parce que sa substance, sa personne qui soutenait son humanité, c'est une personne divine. C'est considérable. Le Fils de Dieu communique donc à son humanité son propre mode d'exister personnel dans la Trinité. Ben oui, bien sûr. Il ne peut pas se nier parce qu'il a pris la nature humaine. Il va continuer d'être vraiment Dieu. On va prendre un exemple qui est à des années-lumière, mais pour un peu nous. Parce qu'on n'a pas l'imagination là-dessus, on n'a pas d'exemple. Mais imaginons que vous preniez un déguisement. Ben, votre manière d'agir, votre manière de parler resteront votre manière, même si vous avez un déguisement. Et qu'on ne vous reconnaîtrait pas, imaginons. Vous déguisez tellement bien que personne ne vous reconnaît. Mais vous êtes, c'est bien cette personne-là que vous êtes qui est sous ce déguisement. Et donc, à travers ce déguisement, on peut quand même percevoir quelque chose de votre manière d'être. Hein, et donc, bon, pour faire la comparaison avec des énormes guillemets, entre nature divine et nature humaine. Ce qui se tient dessous de l'humanité, c'est l'un de la Trinité. Donc, les actes humains que pose Jésus, c'est les actes de Dieu. C'est énorme. C'est pour ça que quand il touche, il guérit. C'est pour ça que sa parole est une parole qu'on appelle performative, c'est-à-dire qu'accomplit ce qu'elle dit. Cette parole est performante. C'est-à-dire la parole du Christ accomplit, comme la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Et Dieu dit, et cela fut. Lève-toi, prends ton grabat et marche. C'est la même chose. Seul Dieu peut dire ça. Voilà, seul Dieu peut, donc ça veut dire qu'il est Dieu. Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins aux œuvres. Aux œuvres. C'est-à-dire à mes actes. Oui, alors, oui, parce qu'il était... il a permis aux apôtres, mais les apôtres s'appuient bien sur le Christ. Donc, ils ont reçu l'esprit du Christ. Et là, sans être de nature divine, évidemment, ils étaient de nature humaine. Mais bon, c'est quand même très fort de se dire, voilà, c'est à travers Dieu, c'est Gaudium et Spes, là, qui est un peu plus... le Fils de Dieu, on est au 470, communique donc à son humanité son mode propre d'exister personnel dans la Trinité. Ainsi, dans son âme comme dans son corps, le Christ exprime humainement les mœurs divines de la Trinité. De Gaudium et Spes, le Fils de Dieu a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a agi avec une volonté humaine. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable hors nous, hormis le péché. Donc on peut dire, par extension, Dieu a souffert. Non pas qu'il ait souffert comme verbe de Dieu, mais comme homme, il a souffert, comme Jésus, oui. Donc c'est dans son humanité, il a souffert. Dieu, c'est tout ce qu'il touchait, et c'était le Verbe de Dieu qui le touchait. Donc c'est quand même pas rien. Donc on peut dire il s'est fatigué, il a travaillé. Du coup, toutes les réalités, il a vécu dans une famille. Toutes réalités humaines sont un chemin pour aller vers Dieu. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien, hormis le péché, qui par définition est l'éloignement de Dieu, il n'y a rien qui puisse, dans notre humanité, ne pas être un chemin pour aller vers Dieu. C'est énorme. Et une source d'espérance colossale. Il n'y a rien dans notre humanité qui soit rejeté, à l'exception du péché. Parce que tout ce qu'il a vécu comme homme, il l'a vécu comme Dieu. Et non seulement ça, c'est qu'il montrait dans son agir l'agir de Dieu, l'un de nous, l'un de la Trinité. L'âme est la connaissance humaine du Christ. Cette âme humaine que le Fils de Dieu a assumée est douée d'une vraie connaissance humaine. En tant que telle, celle-ci ne pouvait pas être de soi illimitée. Elle était exercée dans des conditions historiques de son existence, dans l'espace et dans le temps. C'est pourquoi le Fils de Dieu a pu vouloir, en se faisant homme, croître en sagesse, en taille et en grâce. Dans Luc 2, 52. Donc oui, en termes humains, il a été nourrisson, il a été petit garçon, il a été garçonnet, il a été ado, il a grandi en taille et en grâce. Il a appris à lire, il a appris à marcher, etc., etc. Et de même à avoir à s'enquérir sur ce que, dans la condition humaine, on doit apprendre de manière expérimentale. Cela correspondait à la réalité de son abaissement volontaire dans la condition d'esclave. Voilà, il s'est abaissé alors qu'il est Dieu et qu'il y a une omniscience. Il s'est abaissé à prendre notre nature humaine et à franchir les différents seuils de l'apprentissage, alors qu'en même temps, par ailleurs, il était vrai Dieu. Et donc, il savait tout de toute éternité. Ça, c'est ce qu'on appelle l'abaissement, l'humilité. Et pourquoi ? Pour nous relever, pour le salut. Mais en même temps, la 473, cette connaissance vraiment humaine du Fils de Dieu exprimait la vie divine de sa personne. La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu. C'est en premier le cas de la connaissance intime et immédiate que le Fils de Dieu fait homme a de son Père. Le Fils montrait ainsi, dans sa connaissance humaine, la pénétration divine qu'il avait des pensées secrètes du cœur des hommes. C'est sûr qu'il a appris les choses comme chacun de nous, mais la connexion de son intelligence avec le Verbe de Dieu faisait qu'il percevait dans le cœur des autres les pensées. Dieu est omniscient. De par, c'est ce que dit là, de par son union au Verbe de Dieu, eh bien, sa connaissance humaine a aussi une pénétration divine. Il connaissait les pensées secrètes des cœurs des hommes. Il y a plusieurs citations comme ça. De même, on voit certains saints, par exemple, qui lisent dans les cœurs, Padre Pio, par exemple, par le curé d'Ars, etc. Des hommes comme ça qui ont la grâce de lire dans les cœurs. Bon, mais c'est des grâces charismatiques. C'est pas en fonction de leur nature humaine. C'est des dons. De même, il y a des personnes qui sont thaumaturges, qui font des miracles. Mais c'est pas de leur nature, c'est des dons. Ça, c'est quand même tout à fait autre chose. Alors, hop là, où est-ce que c'est 475, c'est ça. La volonté humaine du Christ, donc on a vu l'intelligence du Christ, la volonté humaine du Christ. De même, de manière parallèle, l'Église a confessé au VIe Concile œcuménique de Constantinople, que le Christ possède deux volontés, deux opérations naturelles, divines et humaines, non pas opposées mais coopérantes, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement dans l'obéissance à son Père tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. C'est-à-dire que cette volonté, il y a une vraie volonté humaine, sinon il n'y aurait pas de nature humaine s'il n'y a pas de volonté humaine. S'il n'y avait pas d'intelligence humaine, il n'y aurait pas de nature humaine. Il a vraiment voulu, mais cette volonté humaine était tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. Père, éloigne de moi ce calice, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ça il le dit dans son humanité. Et à une, la, sa volonté divine était unie à la volonté de Dieu, hein, à tout ce que le Père avait décidé divinement avec le, hein, avec le Saint-Esprit, hein, pour notre salut. La volonté humaine du Christ suit sa volonté divine sans être en résistance ni en opposition vis-à-vis d'elle, mais bien plutôt en étant subordonné à cette volonté toute puissante. Au fond, il nous réapprend ce que ça veut dire être, être homme. Il nous réapprend, hein, c'est au 475, c'est, il suit la volonté divine sans être en résistance ni en opposition, mais en étant subordonné, hein, en lui, voici l'homme. Hein, comme dit de façon prophétique Pilate, Ecce homo. Mais quand il dit ça, il ne sait absolument pas ce qu'il dit. Mais c'est parce que c'était prophétique. En Jésus, on redécouvre ce que ça veut dire la nature humaine. D'avoir une totale une correspondance avec la volonté divine. Oui, entre autres, oui. Oui, oui. C'est ça qu'on avait, mais la, on avait un peu vu dans d'autres, justement, quand on a parlé du péché originel, c'est que là, la volonté humaine, elle est non seulement en amitié avec Dieu, comme avant le péché originel, mais là, elle est assumée. Donc, elle a une proximité beaucoup plus grande que ce que pouvait avoir la nature de nos premiers parents avant le péché. Là, il y a vraiment une. Elle est assumée, donc elle est conjointe. Hein, ce qui fait dire, voilà, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. C'est-à-dire que maintenant, non seulement on est en amitié avec Dieu, mais on peut devenir participant de la nature divine. C'est-à-dire on participera de l'être de Dieu, alors qu'auparavant, on avait juste une amitié, mais sans une participation. Et pourquoi? Parce qu'on participe. Parce que Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est pour ça qu'on peut participer, parce que sa nature humaine, hein, participe à la gloire, parce qu'elle est unie à la divinité. Et donc, en sa nature humaine, tous nous sommes invités à être aussi participants de la nature divine. C'est considérable. Vrai corps. Puisque le Verbe s'est fait chair en assumant une vraie humanité, le corps de Jésus, du Christ, était délimité. À cause de cela, le visage humain de Jésus peut être dépeint. Oui. Au VIe Concile œcuménique de Nicée, l'Église a reconnu que, comme légitime qu'il soit représenté sur des images saintes. Oui, s'il est l'image du Dieu invisible, parce que ça répond à une autre chose, c'est que on voit bien dans d'autres religions monothéistes qui ne sont pas, où il y a, on ne peut pas faire des représentations de Dieu. On voit comment ça entraîne parfois des. C'est compliqué. Hein, parce que c'est un manque de respect, parce que c'est un blasphème, parce que etc., etc. C'est écrit dans la Bible aussi, tu ne feras pas de représentation de Dieu, parce que quelque part, c'était une manière de mettre la main sur Dieu et de transformer un peu en idole. Donc ça se comprend quand il n'y a pas l'incarnation. Mais du moment que Dieu, en Jésus, est l'image de Dieu, l'image de. Voilà, forcément, on peut faire des images, on peut faire des représentations. Et ça a donné tout l'art chrétien, qui est considérable, qui a influencé toute l'humanité. S'il peut y avoir un art aussi dans l'islam ou dans le judaïsme, mais c'est un art géométrique au niveau sacré. Ça ne peut pas être un art, qui est très beau hein, par ailleurs, mais il peut en aucun cas figuratif, donc beaucoup plus pauvre, forcément. Forcément. En même temps, l'Église a toujours reconnu que dans le corps de Jésus, Dieu, qui est par nature invisible, est devenu visible à nos yeux. Voilà, c'est la préface de Noël. En effet, la particularité individuelle du corps du Christ exprime la personne divine du Fils de Dieu. Celui-ci a fait sien les traits de son corps humain, au point que, dépeints sur des images saintes, ils peuvent être vénérés car le croyant qui vénère son image vénère en elle la personne qui est dépeinte. Voilà, c'était juste là, c'était toute la toute la question, la fin je pense, non ? Ça c'est la fin ? Oui. C'est toute la question des images, ça, il y a eu toute une controverse, dans lequel, est-ce qu'on peut justement, la controverse par rapport aux images, etc., est-ce qu'on peut vénérer des images, est-ce que c'est pas de l'idolâtrie, est-ce que c'est pas bon ? Du moment que Dieu est l'image du Père, il est l'effigie, il est l'effigie de sa substance, forcément, ben, on peut dépeindre le Christ, on peut l'écrire, on peut se vénérer, etc. Avez-vous des questions ? Voilà, c'est pas, bien sûr, quand vous regardez, je sais pas, vous voyez la photo de vos petits-enfants, c'est pas la photo, si vous avez des petits-enfants, j'espère que vous laissez tomber la photo. C'est que c'est un soutien, parce qu'on a besoin du visible pour accéder à l'invisible. C'est un soutien, humain. On a le bus de notre fondateur derrière, mais bon, je ne vois pas, parce que l'important, c'est ses écrits, sa personne. Bon, ça donne accès à la personne du fondateur, hein. Peuvent être vénérés parce que vénère en elle la personne qui est dit peinte. Donc c'est pas là c'est pas sinon c'est de la magie, c'est de la voilà, c'est pas de la foi quoi. Oui.
Est-ce que divinement le Christ enfin Dieu souffre aussi ?
Alors non, non parce qu'il est dans la gloire et donc en tant que Dieu il est dans la béatitude éternelle. Mais on peut dire qu'en Jésus, Dieu a souffert.
Et quand il voit le monde tel qu'il est, alors
oui,
sa liberté, n'importe quoi.
Oui. Il se laisse toucher, mais parce qu'il est déjà, il est en même temps au moment de la gloire. Je veux dire, en même temps, il a la. Heureusement qu'il ne se laisse pas atteindre. Il y a eu un très beau livre du père Garrigue, un théologien dominicain, qui s'appelle « Dieu sans idée du mal ». C'est-à-dire que quand il regarde le monde, il regarde son fils. Il ne regarde pas autre chose, il ne regarde pas le mal. Et il regarde déjà l'obéissance du fils. Il ne regarde que ça. Et donc déjà la gloire. Il n'y a pas de commune mesure, comme dit saint Paul, entre les souffrances présentes et la gloire qui est à venir. Mais donc, en Dieu, on est encore à la croix, on est à la création du monde et on est à la gloire, parce qu'il n'y a pas de temps. Oui, donc ça veut pour nous, on n'a pas aussi de conception de ce que ça veut dire. Mais c'est déjà la gloire. Donc, parce que si en Dieu, qui dit un mal, dit une imperfection, dit une privation de quelque chose, si en Dieu il y a de la perfection, malheur à nous, quoi, parce que qui va nous donner la perfection ? Si en lui-même il y a aussi de l'imperfection.
Et une deuxième question.
Oui.
Qu'est-ce que veut dire le verbe engendrer ? Parce qu'on dit toujours que le Christ est engendré. Comme nous on est créé, on a du mal
engendrer.
À engendrer la subtilité.
Oui, c'est pas simple. Alors on n'a pas traité la Trinité, mais engendrer, non pas créer. Ouais. Un engendrement, c'est-à-dire. Le Père, c'est le Verbe, donc engendrer, non pas créer, de même nature que le Père, de même substance que le Père. Ben, du coup, engendrer, c'est-à-dire que le Père de toute éternité a voulu se dire. Et il s'est dit dans son Verbe, dans une seule parole, qui est le Christ. C'est engendrer, c'est, au fond, c'est quelque chose qui vient du cœur du Père et qui se dit. Voilà, c'est cette parole unique.
Mais s'il est engendré,
ça ne veut pas dire qu'il y a un avant et un après.
Ben voilà.
On est, mais il n'y en a pas. La question, la réponse est claire, il n'y en a pas. C'est un mystère. C'est, parce que qui dit un avant et un après, je voudrais dire qu'il y a un problème. De toute éternité. De toute éternité. Nous, on est engendrés, parce que nous, on a été engendrés par notre mère, mais bon, il y a eu un moment, mais c'est de toute éternité. Cette parole-là, elle vient du cœur du Père, elle vient du sein du Père, de toute éternité. Et elle est de même nature que le Père, mais elle n'est ni antérieure ni postérieure au Père. Le Père est juste son principe. C'est ça que ça veut dire en Genèse. Le Père est principe de toute chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il est premier dans le temps. Là, on fait de la théologie, là, un petit peu, là. Ça va ? Ça ne vous donne pas... Bon, on a des bonnes aspirines à la fin. Le Père Garrigue. Garrigue, avec deux R. Jean-Miguel. qui a été mon père spirituel pendant tout un temps, là, justement, qui est celui qui m'a conseillé d'entrer dans la congrégation quand il était à Lyon. Et Dieu sans idée du mal, c'est bon, c'est un essai théologique, mais qui est vraiment intéressant. Je veux dire, il ne voit que son fils, le père ne voit que son fils, sans idée du mal. Il ne voit que la victoire de l'amour. Nous sommes invités à voir que ça aussi.
Ça veut dire la
vie. Ben oui, c'est ça. Amen. C'est-à-dire que il n'y a rien d'autre que Dieu. Dieu est point. Solo basta, solo Dios basta.
Est-ce qu'on a une partie divine en nous?
Non. Stricto sensu, une partie divine en nous, on ne peut pas dire ça comme ça, parce que ça, ce serait à la manière un peu asiatique. C'est-à-dire que on ne peut pas dire qu'on est une partie, on n'a pas une nature divine en nous. On a une inhabitation de la Trinité en nous, c'est pas pareil. Mais on n'a pas, en tant qu'homme ou femme, en tant que nature humaine, une partie divine en nous. La Trinité habite en nous. Oui, d'accord. Oui, mais de notre nature, la Trinité, elle n'est pas de notre nature. Dans l'humain, il n'y a pas quelque chose de... Alors, on le dit de façon un peu allégorique, on dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, etc. Bon, mais on ne peut pas, stricto sensu, on ne peut pas dire qu'on est de... Il y a quelque chose de divin en nous, dans le sens que de nature humaine, on reçoit quelque chose qui appartient à Dieu, mais qui n'est pas de la nature humaine, qui appartient, qui vient, qui est un don de Dieu.
Oui, c'est un don.
Ah oui, oui, mais on n'est pas, mais on peut pas dire qu'on est divin.
On n'est pas divin, mais c'est un don de Dieu qui nous est donné quand même dans la nature humaine.
Ah oui, d'accord. Mais d'accord, mais on ne peut pas dire qu'on est divin. Oui, non, non. Ah oui, d'accord. On est d'accord.
On est d'accord.
On est fils de Dieu, mais on n'est pas Dieu.
Oui.
Alors, non, on est fils de Dieu parce qu'on est baptisé. Baptisé dans le Christ qui est le Fils, mais par participation.
Parce qu'on a une âme.
Ah non, pas parce qu'on a une âme. Même les païens pensaient qu'il y avait l'âme est éternelle. Mais l'âme, la question du fils de Dieu, on l'est par le baptême. On est aimé de Dieu comme créature. Mais fils de Dieu, on est fils de Dieu parce qu'on est baptisé, qu'on a reçu cette adoption. Oui.
Et
les
non-baptisés,
eh bien, ils sont aimés de Dieu, mais ils ne sont pas fils. Comment ?
Non-baptisés ?
Ben, c'est une humanité qui est aimée de Dieu et qui se sauvera par sa conscience. Mais nous, quelque part, il nous sera beaucoup plus demandé. Parce qu'il nous a été beaucoup plus donné. Connaître le Christ, connaître le Christ, c'est pas comme ne pas le connaître. Et donc le reste de l'humanité est dans l'état d'âme, mais on peut pas dire, alors on le dit fils de Dieu, mais stricto sensu, fils de Dieu, c'est conforme, être dans le baptême conforme à celui qui est fils. Hein, celui-ci est mon fils baptisé, dans ma bien-aimée. Quand est-ce qu'on le voit? Au moment du baptême du Christ. Donc du coup, être fils de Dieu, stricto sensu, c'est dans le baptême. Les autres personnes, cette filiation divine, ce n'est pas simplement le fruit de notre nature humaine. Notre nature humaine, l'essai elle-même, n'est pas dans une filiation divine. Elle est aimée de Dieu, et on peut l'aimer, ben oui, mais c'est pas pareil. De même, vous pouvez aimer les autres personnes, mais autre chose de dire tout le monde n'est pas votre fils ou votre fille. Comment ? Quoi, même les saints? Ah, mais les saints ne sont pas Dieu, non, ben ça c'est sûr. Non, mais ça c'est autre chose, mais c'est important de dire, fille, parce qu'on a tellement, aussi on a voulu un peu ouvrir tout, etc. Alors ça, il faut le dire, parce qu'un peu dans un cercle un peu d'initiés, comme ce que vous êtes. Mais, parce que on se serait dit, mais bon, est-ce que c'est pas un peu, ça fait... non, c'est les autres sont aimés de Dieu, peuvent avec leur raison... arriver à prouver l'existence de Dieu, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, à se conformer, s'ils suivent leur conscience, à une conduite droite, et à se sauver par la grâce du Christ. Ils sont sauvés par la grâce du Christ qu'ils ignorent, mais ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés parce que la grâce agit en eux, parce qu'ils sont fils de Dieu par le baptême. Encore une fois, il nous sera beaucoup plus demandé. C'est beaucoup plus engageant d'être baptisé que de ne pas être baptisé. Mais c'est beaucoup mieux aussi. Ça, c'est sûr. Vous comprenez, ça, C'est la filiation divine, ça, les mots ont un sens. Et le Fils de Dieu, c'est le Christ. Comment est-ce qu'on devient un autre Christ? Par le baptême. Pas par la naissance. C'est pas par la naissance, à la différence du monde, du peuple juif. On devient juif par la naissance. On ne devient pas chrétien par la naissance. On devient chrétien par la nouvelle naissance, qu'est le baptême. Et c'est quoi la nouvelle naissance? C'est devenir fils de Dieu. Ben regardez, je ne sais pas si vous avez participé à un baptême, regardez sous le baptême, relisez, tu es maintenant fils de Dieu, etc., etc. Maintenant, ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas. Regardez la liturgie du baptême, c'est tout. Ah oui, non, mais c'est choquant, parce qu'on était tous persuadés qu'on dit, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas aimés. Ils sont aimés de Dieu et il y a une volonté de salut, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas simplement les baptisés, simplement ceux qui reconnaissent le Christ, veulent être semblables à lui, reçoivent le baptême, ben c'est sûr qu'il y a, nous est ouvert aussi une possibilité de plus grande, mais aussi une responsabilité plus grande.
Et ceux qui le refusent, ça veut dire qu'ils le reconnaissent, mais qu'ils n'en veulent pas.
Ah oui, alors c'est autre chose.
C'est
ah oui. Oui, alors ça c'est autre chose, les apostats, l'apostasie. Mais on ne peut pas se débaptiser, on peut être rayé des registres baptismaux et on marque en marge à abjurer sa foi. Mais stricto sensu, le baptême, on n'a pas traité le sacrement, le baptême met un saut dans notre cœur. C'est-à-dire, clac, on est enfant de Dieu par le baptême. Mais on peut très bien abjurer sa foi. C'est-à-dire qu'on peut plus avoir, pardon, on peut plus avoir accès à tous les autres sacrements. Et qu'ensuite, on ne peut pas être, sauf si on fait abandon honorable, etc.
Le baptême, c'est quelqu'un qui devient musulman, c'est toujours
ah, ils sont toujours chrétiens, ils sont toujours baptisés. Ah ben oui, 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 je suis d'accord. Ah ben je ne voulais pas l'inverse. Mais non, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Aucun n'était chrétien pratiquant, convaincu. Bon, beaucoup, bon, voilà. Mais ils restent baptisés. Mais ils restent baptisés. Et du coup, on peut croire aussi que la grâce de Dieu agit dans leur cœur de baptiser. Oui.
C'est l'esprit, le baptême, c'est l'esprit qui
est
en
haut, c'est ça? Ah, non, c'est la. Oui, l'esprit de Dieu, mais c'est la personne, c'est toute la trée. Là où est l'esprit de Dieu, et le Père et le Fils aussi. C'est pas simplement l'esprit déconnecté. La Trinité agit toujours de concert.
C'est ça que vous disiez tout à l'heure, la Trinité en nous.
Oui, la Trinité, c'est ça. La Trinité, c'est la présence en nous de Dieu, Trinité. Voilà, c'est quand même ce qu'on appelle l'inhabitation de la Trinité en nous. C'est-à-dire vraiment qui nous divinise. Mais là, c'est là qu'il y a quelque chose qui nous divinise. Encore, en ce sens-là, oui, il y a quelque chose. C'est Dieu qui nous divinise, mais ce n'est pas que dans notre nature humaine, on soit déjà divin. Il y en a qui pensent ça, que notre nature humaine est déjà aussi divine. Non.
Je trouve que c'est restrictif, ça.
Oui.
Parce que si c'est simplement ça, ça veut dire que quand il n'a pas fait l'homme, pour accéder à lui, s'il y a déjà une restriction au départ.
Pourquoi pour accéder à lui?
C'est simplement la Trinité qui. S'il n'a pas voulu dans l'homme, qu'on se rejoint. Je ne sais pas si c'est l'esprit aussi.
Maintenant, on peut aller vers Dieu de différentes manières.
Oui, mais c'est sans.
De le rechercher.
Non,
pas cette partie, cette capacité. En nous, on est capable de Dieu. C'est même comme ça que commence le catéchisme. La personne elle-même est capable de Dieu. Elle est capable, elle n'est pas divine, mais elle est capable de Dieu. Et donc, il ne faut pas éteindre en nous l'esprit, il ne faut pas éteindre en nous cette recherche de Dieu. Et ça, c'est toute personne humaine. De fait, qu'elle soit personne humaine, elle est capable de Dieu. Voilà. Et on peut aller vers Dieu en dehors des sacrements. Dieu ne se limite pas à sept sacrements. Là, encore une fois.
Quand on meurt, si on n'est que personne humaine et qu'on ne fait pas la relation à Dieu, ça veut dire que c'est comme si on était un chien.
Ah non, 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 parce qu'on a une âme, on a une âme rationnelle. Ah non, 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 non. L'âme rationnelle. Non, non.
Donc,
l'âme
rationnelle. Il y a quelque chose de ça.
Non.
C'est pour ça qu'il y a quelque chose de cette
non. Non, l'âme rationnelle. L'âme humaine, en dehors du baptême, est une âme éternelle. L'âme humaine, en dehors du baptême, est une âme éternelle. C'est-à-dire, ça, Aristote, qui était païen 4 siècles avant Jésus, a prouvé très clairement que l'âme humaine, c'est l'intelligence et la volonté, et l'intelligence et la volonté n'est pas le fruit de la matière. Il y a quelque chose en nous qui transcende la matière, mais sans révélation.
Mais qui peut avoir une relation de divinité?
Ah oui, d'accord, mais en tout cas, l'âme humaine, de fait de l'âme humaine, il y a déjà une dimension éternelle. Elle est immatérielle. Et d'immatériel, forcément, elle ne peut pas mourir. L'âme humaine est... Quand vous montez, mettez un enfant au monde, vous le mettez pour l'éternité. Que vous soyez croyant, pas croyant, parce que son âme humaine est éternelle. Alors que l'âme animale, non. Elle est réduite à la matière. L'âme animale, le corps du chien, on a un chien qui s'appelle Toby, qui est tout à fait sympathique, mais quand il mourra, son âme... Il a une âme aussi, mais quand on a une âme, c'est pas qu'au sens religieux. Hein. Il a une âme qui est un principe de vie, mais quand il mourra, son corps se décomposera, puis ce sera fini. Il n'y a rien en lui qui transcende la matière. Or, dans toute personne humaine, il y a quelque chose qui transcende la matière, mais au-delà du sacrement. Ah non, c'est la capacité d'aimer qu'on appelle la volonté, la capacité de comprendre qu'on appelle l'intelligence. Oui. Ah, mais c'est encore autre chose, ça.
Oui,
mais
non, parce que est-ce qu'il est Dieu à ce moment-là?
Ah non. Il agit, qu'on appelle in persona Christi, et il agit dans la personne du Christ. Il agit dans le Christ, mais il reste de nature humaine. À aucun moment, il reste de nature. C'est le lieu, justement, l'humanité devient le lieu, on est la religion, on a les religions de la médiation, devient le lieu du contact avec Dieu. C'est énorme. L'humanité par Jésus, mais pas par sans Jésus, non. Par Jésus, avant il y avait Dieu, il y avait l'homme. Mais par Jésus, l'humanité devient le lieu de contact avec Dieu. Dans le sacrement, ceci est mon corps, il ne dit pas ceci est le corps de Jésus. Ceci est mon sang, je te pardonne, il ne dit pas Jésus te pardonne. Il agit dans la personne du Christ. Mais il reste de nature humaine. Même au moment où il prononce ses paroles. Oui. Alors, en fait, c'est une pratique qui était très ancienne dans l'Église, c'est-à-dire où les catéchumènes participaient à la liturgie de la parole, et ensuite sortaient, donc extra omnes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas de... baptisé, etc. Du coup, il avait un temps d'enseignement. Pendant ce temps-là, il y avait la liturgie eucharistique. Et du coup, alors ça, c'est. Et ensuite, il pouvait réintégrer à la fin de la messe. Mais c'est assez intéressant parce que, bon, maintenant. Parce que c'était aussi le temps de début. Il y avait beaucoup de non-baptisés et de gens et beaucoup de catéchumènes qui voulaient être baptisés, adultes, tous adultes. Et donc, du coup, il y avait justement pour montrer le fait. Que quand on n'est pas baptisé, on ne participe pas à toute la célébration. Parce qu'on ne peut pas, justement, la partie eucharistique demande d'avoir reçu le baptême pour pouvoir communier, évidemment. Oui ? Oui ? Alors, oui. Alors, vous allez changer de prédicateur, grâce à Dieu, puis c'est le père Éric qui va vous prêcher et qui va vous prêcher sur la joie de l'évangile. La joie de l'évangile du pape François. Et donc, voilà, donc voilà, ce sera l'année prochaine. Il parlera de début sur le pontificat du pape François, et ensuite sur la joie, sur ce que veut dire la joie, etc. etc. Donc, vous l'aurez comme prédicateur pendant l'année prochaine, peut-être d'autres années encore, il faudra voir, mais bon. Nous avons travaillé pendant deux ans.
Deux ans
le credo. un an le credo, oui. Un an, c'était sur les trucs de famille, ça. Le mariage, etc., sur le mariage. Et là, ça, c'est un an le credo, oui, bon, ça mériterait d'être... Ah non, je parle pas d'Ouscan, non, je reste toujours là. Moi qui mette dehors, mais a priori, c'est pas d'actualité. Parce que c'est trop, parce que j'ai trop de prédications. Parce que je suis en charge des week-ends couple et je veux vraiment me centrer sur la préparation au mariage et sur, entre autres, quelque chose que j'ai mis en place il y a au mois d'octobre, c'est un week-end discernement vers le mariage, c'est-à-dire qu'en amont des fiançailles, pour savoir, voilà, est-ce que les personnes Et là, et donc on voit qu'il y a son, et du coup, on ne peut pas tout faire dans la vie. J'étais chez les Altespiel, retraite discernement de fin d'année, retraite discernement pour le mariage, retraite de préparation fiancée, retraite pour les couples. Donc ça faisait quand même, pour le camp étudiant, etc., ça faisait beaucoup de choses. Et du coup, je voulais me recentrer sur ça, quoi. Donc du coup, j'ai demandé à être déchargé des haltes spirituelles et puis des week-ends famille aussi, parce que je faisais aussi des week-ends famille. Enfin, pratiquement toutes les prédications, quoi. Voilà. donc du coup, c'est bien que ça change aussi, parce que c'est vrai que, voilà, on a quand même une mission, en tout cas pour les prêtres, davantage de prédications. Ben, c'est bien qu'on ne prenne pas le même et on tape toujours dessus. Voilà. En tout cas, c'est une volonté propre, disons. Une volonté de changer, d'être un peu soulagé, quoi.
En tout cas, merci de ce que vous nous avez.
2 ans, vous m'avez supporté pendant 2 ans. Bon. Bon. Et là, on a fait de la théologie, là. Là, ça, c'est... C'était un peu plus « ou », comme vous dites, voilà, mais ça, c'était prévu. C'est la théologie, mais je trouve que c'est bien qu'on rentre dedans, parce que ça... On pose des tas de questions, puis bon... Oui, vous allez être calé, bien sûr, et comment ?